Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Ce sont des personnages, des types, des héros ou des anti-héros hautement cinématographiques. Flics et voyous, détectives et délinquants nourrissent indissociablement une quantité invraisemblable de films hollywoodiens, de séries télé, autant que de films d'auteur. Ils sont le fonds de commerce de toute l'industrie. Car leur activité, qui implique par définition un danger, un risque, est parfaite pour créer de l'attention, du suspense. D'ailleurs, il suffit de poser tout de suite une bombe sous la table, expliquait Hitchcock, ou de mettre un revolver dans une poche, n'importe laquelle, et le suspense est lancé, le spectateur attentif, suspendu à ce qui va advenir. Le récit peut alors démarrer, prendre son temps. Plus captivant encore, voici celui ou celle qui, en plus, dans la vraie vie, réunit les deux activités en même temps ou successivement. Le flic devenu ripou, le criminel repenti qui se met à rendre la justice. C'est là que bien souvent, on comprend que ce qui les sépare est bien mince. L'adrénaline est la même, les planques, les sorties nocturnes, les armes et le danger. Voici donc l'histoire d'un jeune homme qui vient de la classe moyenne, ni pauvre ni très riche, et que rien ne destinait particulièrement à être un bandit ou un flic, et qui a fini par faire les deux. Suspense garanti par Clément Baudet.
Je m'appelle John Doe, j'ai 35 ans. J'ai grandi dans un milieu plutôt classe moyenne supérieure, on va dire, d'une quand même bonne famille. Quand j'étais à l'école, je suis resté clairement dans la moyenne avec un travail minimum. Le seul moment où j'ai révisé dans ma scolarité, c'était pour le bac. Voilà. Alors, le lycée, début de la fête, début de l'alcool, j'étais très fêtard. Ça commence assez tôt, 15 ans. J'avais commencé un petit peu à tester quelques drogues. Du shit, de la weed. À ce moment-là, j'étais pas addict. J'en fumais vraiment en soirée. Ça restait soft. Et au moment du lycée, j'ai fait une rencontre très importante qui a eu une grosse répercussion sur ma vie. C'était un camarade de classe, très très intelligent, qui avait un très bon niveau en chimie et en physique. On était tous les deux fans du fameux film Fight Club. Et faut se dire qu'on a fait exactement pareil qu'eux. On a trouvé un squat abandonné, dans une aile d'hôpital abandonnée. Dans les baignoires de cet hôpital, on faisait des cristaux pour fabriquer du TATP. Un explosif qui, en étant fondu avec des balles de ping-pong par exemple, peut être transformé sous forme de plastique. Donc, des charges de plastique explosives. Puis, on a commencé à faire des vols, des cambriolages, des incendies, de la casse. En général, on allait dans les jardins des particuliers. On commençait un petit peu à voler les cabanons. On commençait à faire des effractions, rentrer dans les entrées des maisons pour essayer de voler ce qu'il y avait dans l'entrée. On s'éclatait à tester les nouvelles trouvailles du chimiste. Des explosifs, des mélanges combustibles, ce genre de choses. On faisait des tags aussi pour essayer de recruter des gens. Rassembler des marginaux autour d'un même point commun. L'envie de liberté de la nuit pour s'amuser, pour s'éclater la nuit. Ce qu'on n'arrivait pas à faire dans l'autre partie de la vie, le jour. On n'a jamais volé de l'argent pour avoir de l'argent. C'était vraiment d'arriver à voler pour la sensation de voler, en ayant du plaisir. Ça me faisait me sentir vivant. Je cherchais vraiment à m'évader de la monotonie du lycée. Enfin, mes moments préférés, c'était vraiment le soir et la nuit. Et j'arrivais à sortir très facilement parce que bon, on avait une maison à étage. Clairement, je sortais par la fenêtre de mon étage pour monter sur le toit. Je sautais sur la voiture de mon père. Et ensuite, ben, je sortais tranquillement en évitant les détecteurs, le gravier et tout ça. Mais même ce petit moment-là de discrétion, ça me mettait déjà dans l'ambiance de la nuit. À cette époque, je sortais environ toutes les 2 ou 3 semaines, je pense. Parce que bon, fallait quand même gérer la partie visible de l'iceberg, qui est la vie d'étudiant, et ça fatiguait beaucoup. Parce qu'en général, on se retrouve à des heures, 1h, 2h du matin, quand les lampadaires étaient tous éteints. Et je rentrais très souvent à 5h du mat. Je dormais quelques heures et j'enchaînais avec ma vie de lycée. Hein. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à développer vraiment une addiction pour la sensation d'adrénaline et la liberté qu'elle donnait. Quand je sortais d'une course-poursuite, la sensation de ne pas avoir été attrapé était si intense. Tu te sentais si vivant. C'était par exemple, on a cassé un scooter qui était garé vraiment juste devant une maison. Le mec est sorti de sa maison, il était en boxer, il nous a vus. Course-poursuite. On était trois à ce moment-là. Et le mec, pieds nus derrière nous, en boxer, qui nous a poursuivis pendant quasiment 200 mètres. Et là, on s'est séparés pendant courant. Hop, moi, je me suis caché dans un buisson après avoir tourné dans une rue. Et là, j'entends la personne qui... C'était moi qui l'avais choisi de chasser. La personne qui crie, qui arrête de courir, qui se met à marcher, qui passe tout proche de moi. Et puis après, qui revient chez lui. Et là... Oh, la liberté, voilà. C'était exactement ça. C'était exactement ça en boucle. En fait, la nuit, pour moi, ça représentait à ce moment un monde à conquérir. Si tu commences à comprendre où sont les patrouilles de policiers, les esquiver est très simple. Nous, on a toujours été précautionneux des chemins qu'on emprunte, des lieux où on effectuait nos actes. C'est-à-dire, on n'a jamais eu une voiture de police qui s'est arrêtée à notre niveau. On n'avait pas la tête de l'emploi. On était blancs, on avait les cheveux longs, on ressemblait vraiment à des mecs qui faisaient du métal, quoi. Et c'est sans doute pour ça que je me suis jamais fait arrêter. Alors, je me suis fait attraper plusieurs fois par mes parents. Comment dire qu'un jour où je rentrais du lycée et ma mère m'attend sur la table du salon avec un porte-clés contenant à peu près plus d'une soixantaine de clés que j'avais volées, elle m'a demandé « C'est quoi ça ?» Ça s'était très mal passé. Elle a compris à ce moment-là que j'avais déjà des penchants pour l'illégal. Alors, fin lycée, une de nos bombes a explosé dans un lieu public. Alors, c'était une bombe inoffensive qui faisait juste beaucoup, beaucoup de fumée. Mais c'était une fumée qui était un peu toxique, un peu irritante pour les poumons. Quelqu'un a porté plainte. La police est arrivée et a attrapé mon meilleur ami ainsi que deux personnes. Et il y a eu une perquisition, mais ça n'a rien donné. Et suite à ça, avec la fin du lycée approchant, on a décidé d'arrêter. C'est-à-dire tout le groupe s'est arrêté à ce moment-là. Je passe mon bac, je rentre dans une prépa. Je ne voulais absolument pas aller en prépa. C'était mes parents qui m'ont un peu poussé dans ce sens. Le fait que mon frère et ma sœur soient passés par ce cadre-là, c'est-à-dire des études de sciences et devenir ingénieur, me mettait une pression parce que on a toujours été un peu compétitifs entre frères et sœurs. Et même si mes parents ne le disaient pas directement, moi je le ressentais très fort. Mais les études ne me correspondaient pas. Par contre, le seul côté positif de cette année, ça a été de vivre loin du foyer familial. Je commençais les soirées vraiment avec les grands. Je commençais à connaître les bars. Je commençais vraiment à fumer avec des gens plus vieux que moi. J'ai fait plein de rencontres à cette époque-là. Et j'ai attendu la fin de l'année. Je suis revenu dans ma ville natale. Je reprends des études de sciences. Je me cherchais à ce moment-là, je cherchais ce qui me faisait envie. Et c'est vrai que j'ai besoin d'argent car mes parents m'en donnent moins. Et je décide, au lieu de me prendre un petit travail comme tout bon étudiant le ferait, je décide de commencer à faire des cambriolages professionnels. Alors, je commence à faire de la surveillance de personnes, c'est-à-dire par exemple connaître les emplois du temps de toutes les personnes dans un foyer, reconnaître des personnes isolées, arriver à vraiment déterminer des ouvertures ou des failles dans des maisons. Je mets au courant personne, pas même mes meilleurs amis du moment. Je commence vraiment à mener une double vie cachée. Je faisais vraiment en fonction des opportunités les plus simples et surtout les moins gourmandes. J'essayais de pas faire beaucoup, de me faire des 500 par mois, ou pas plus, faut pas plus. Et donc, je commençais à rentrer dans des maisons pour les objets de valeur, pour tout ce qui peut être carte bleue, bijoux, portefeuille, etc. J'ai toujours profité de la faille humaine, c'est-à-dire les personnes qui oublient de fermer chez elles. Une porte ouverte, un oubli de fenêtre, un oubli vraiment de la porte de derrière ou ce genre de choses qui n'était pas fermée, une baie vitrée un peu ouverte. Et je me suis toujours arrangé à faire jouer les assurances en cassant très souvent un carreau. Et ça a toujours été important pour moi parce que ça rendait le cambriolage plus éthique, entre guillemets. En parallèle, j'ai commencé à rentrer dans des groupes de trafiquants, de gens qui fument beaucoup, ou des gens qui plantent, ou des gens qui créent des substances illicites, et qui ont des contacts très réguliers avec des dealers qui étaient devenus leurs amis, et donc mes amis. J'avais vraiment l'impression d'appartenir à leur milieu. Du coup, j'ai commencé à tomber dans la fumette, alors sachant que j'avais déjà pas trop d'argent. Le moment où je suis passé dans la fumette, c'est devenu encore plus compliqué. J'ai dû augmenter mon rythme dans l'illégalité. Je fumais du cannabis. Je fumais un 30 euros par semaine, ce qui est quand même pas mal pour moi. Mais à l'époque, les seuls moments où je me sens vivant, c'est pas dans les études ou au moment où je partage avec des gens. C'est vraiment les moments où j'arrive à sortir avec un butin d'une maison. Tout ce qui est à côté devient fade. La psychologie, ça ne va pas du tout. La drogue, elle commence à prendre de plus en plus de place. Je comprends, au bout de ma première année d'études, que j'ai obtenu que ce n'est pas non plus fait pour moi, comme l'année de prépa. Et du coup, j'abandonne. Sauf que cette fois-ci, je ne le dis à personne. Je commence à rentrer dans la boucle du mensonge. Ça va durer un an et demi jusqu'à ce que ma mère découvre ce que je faisais. Elle est tombée sur une lettre qui montrait que je n'étais plus dans cette formation, en fait. À ce moment-là, elle m'a vraiment demandé de me livrer. Je lui ai dit une partie. Je ne suis pas trop rentré dans les détails, mais je lui ai dit que c'était ça qui me plaisait. Et aussi, je lui ai raconté mes addictions à la drogue. Elle a compris que j'étais au fond du trou. Et ensuite, on a commencé à réagir ensemble. Mais c'est vrai que j'ai clairement minimisé ma double vie de cambrioleur. Elle s'est mise à pleurer. Elle me dit qu'elle sera toujours là pour moi et elle me dit que je peux m'en sortir. Ma famille proche me propose une alternative, c'est de changer de vie, de partir à l'autre bout de la France, loin de mes cercles toxiques et loin de mon addiction, et de recommencer sur une nouvelle base. J'accepte. Je commence directement à trouver un travail saisonnier et je commence à m'habituer au travail saisonnier. J'ai été dans la restauration, c'était vraiment très dur, mais je commençais à m'y faire. Et un jour, je reçois un appel de la sœur de mon meilleur ami, qui m'appelle en me disant « Ton meilleur ami s'est fait arrêter ». Mon meilleur ami de l'époque était quelqu'un qui fumait beaucoup et qui commençait à rentrer dans des business de trafic. Et c'était lui qui faisait le transporteur de grandes quantités de cannabis. J'apprends qu'il a été transféré en hôpital psychiatrique et je commence à développer une grosse culpabilité par rapport à ça. Et à ce moment-là, je suis clairement rentré en dépression. Tous les efforts que je commençais à faire, avoir un taf, recommencer mes études, ça n'a pas été balayé complètement, mais clairement les fondations de ce que j'étais en train de créer étaient déjà ébréchées. Donc après mon travail saisonnier, je pars à l'autre bout de la France et je commence des études qui me correspondent un peu plus. C'est toujours dans les sciences, mais ça me correspond un peu plus. Et du coup, je retombe en manque d'argent et je me décide à reprendre tranquillement, de façon moins professionnelle, quelques petits actes illégaux. Je propose à des personnes que j'aime de me confier eux-mêmes des missions. Par exemple, on pouvait me demander d'exécuter certaines vengeances, on pouvait me demander de donner des infos sur des personnes, on pouvait me demander d'effectuer des reconnaissances de trafic. J'ai brûlé une voiture d'une personne qui avait violé une de mes amies. J'ai aidé une personne à ne plus se faire emmerder par des harceleurs en leur mettant un coup de pression. Ma politique de l'époque était le premier service est gratuit et les deuxièmes sont payants. Ça pouvait être entre 50 à plus de 500 euros. Au début, ça a commencé par mon cercle proche et ensuite, ça a commencé à se faire du bouche à l'oreille parce que je me sentais vraiment comme un justicier et plus comme le voleur. Ce genre de choses, je l'ai fait pendant les 3 ans où j'ai fait ma licence.
France Culture. Les pieds sur terre.
À 25 ans, j'ai fini ma licence. Je suis retourné dans ma ville natale. Mes parents ont arrêté de m'aider et j'ai commencé à essayer de m'intégrer dans vraiment la société. Trouver un taf, développer des amis normaux, trouver une copine normale, etc., etc. Et au final, ça ne me convenait pas du tout et ça m'enfonçait encore plus dans la dépression. Je disais à tout le monde que ça allait bien, mais c'était tout le contraire. Tout allait mal, tout allait mal. Donc, je retombe, je redécide de partir dans l'illégal. Je commence à refaire des actes par moi-même, c'est-à-dire c'est moi qui choisis mes cibles. Alors les cambriolages professionnels et le vol d'objets, je l'ai toujours effectué. Mais à force d'en faire, je me suis dit, il y a un moment où je vais me faire attraper. Du coup, je me décide à passer à l'étape supérieure et à faire des choses bien plus graves. J'ai toujours évité le contact physique avec les gens, mais j'avais besoin de gagner plus. Donc je crée un plan sur plusieurs semaines. J'ai décidé de cibler une bourgeoise que j'ai clairement identifié via son modèle de voiture, sa maison, ses habitudes. Et une fois que je l'ai identifié, j'ai commencé mon travail d'information. Filature, surveillance. Je fais vraiment tout ce qui est la récolte sur les emplois du temps de chaque personne présente dans le logement. Et donc, je me suis mis dans l'idée de faire une séquestration, c'est-à-dire attendre que le mari parte de la maison, rentrer, séquestrer, voler les bijoux, tous les objets de valeur, toutes les cartes bleues, tout ce qui était possible de voler. Du coup, ben, il y a un jour où je me dis, ok, demain c'est la bonne. J'arrive pas à dormir de la nuit. Je me réveille à 5h du matin. Je m'introduis dans le jardin de ma victime. Je me place en planque. Il est très tôt, il pleut. C'est la météo parfaite pour couvrir les bruits, etc. Le mari s'en va, comme ce qui était prévu. Je me suis mis en embuscade, vraiment juste à côté de la porte d'entrée. J'ai appuyé sur la sonnette. J'ai attendu que la personne ouvre la porte. Là, j'entends les pas s'approcher de la porte qui s'ouvre. Moi qui cagoulé de la glu sur chacun de mes doigts pour éviter les empreintes. Et là, j'arrive sur la personne, un début de cri. J'ai ma main qui se serre sur sa bouche. J'arrive à rentrer dans la maison, à la pousser dans la maison et en même temps avec mon autre main à fermer la porte d'entrée. Je commence à la menacer avec un taser, et comme je l'avais prévu, elle s'est soumise. Là, je suis dans un état d'esprit de robot. Je dois effectuer ma mission, et ce sera fait. Je commence à dire à la personne de se coucher sur le canapé. Je prends des serflex, je lui sangle les pieds et les mains. Elle criait et elle commençait à pleurer. Elle pleurait de désespoir. Étonnamment, j'ai jamais crié pendant ça. Je suis toujours resté calme, ferme. Toujours le taser braqué sur elle. Et j'ai commencé à demander toutes les infos que je voulais avoir. Je voulais les codes de carte bleue, tous les emplacements des bijoux. voulais aussi prendre tous les systèmes de communication qui permettraient d'avertir la police et me laisser le temps de faire ce qu'il fallait que je fasse avec les cartes bleues. Tout s'est bien passé. La personne m'a dit des choses qui m'ont marqué à vie, mais elle sanglotait. Elle commençait à me raconter ses problèmes alors qu'elle était sur le canapé. Et moi, tout en cherchant et en fouillant, je l'entendais parler de sa situation. Elle était vraiment dans une passe difficile, je pense, et moi j'en rajoutais une sacrée couche. Vraiment, j'étais en train de traumatiser une personne. Je savais qu'elle mettrait du temps à s'en remettre. Et à ce moment-là, j'avais plus besoin de la menacer avec le taser. Je savais qu'elle ne ferait rien. Je suis resté quasiment une heure à l'intérieur avec elle. Je la laisse sur le canapé avec les Serflex sur les poignets et sur les chevilles. Je sais que c'est dur de se sortir de Serflex dans cette position. Puis je suis sorti, je me suis changé. J'ai jeté mon sac. J'arrive à retirer ce que je voulais retirer des cartes bleues que j'avais volées. Je m'évade dans la nature. Je passe une nuit en forêt. Enfin, une journée et une nuit en forêt pour laisser le truc se dissiper. Je réfléchis beaucoup. Je commence à ressentir vraiment le poids de ce que je venais de faire. Au final, il n'y a pas eu d'enquête de voisinage, de mes connaissances. Et il n'y a eu aucune répercussion jusqu'à maintenant sur cette affaire. Après coup, j'étais vraiment traumatisé. Je revoyais la scène de la personne qui pleure. Et vraiment, je la repassais en boucle, en boucle, en boucle. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de tout arrêter qui impliquait d'autres humains dedans, en physique. Et du coup, j'ai dû développer plus de compétences à distance. Ça m'a amené à faire des fraudes bancaires, à faire un petit peu d'usurpation d'identité, à développer des compétences de faussaire. Alors j'ai décidé de m'attaquer aux banques et aux entreprises parce que je savais que j'allais être beaucoup moins coupable de m'attaquer à des gens qui profitent de l'argent d'autres. Je me sentais un peu comme Robin des Bois, sauf que je gardais tout l'argent pour moi, hein, je le redistribuais pas. C'est juste qu'au final, c'était clairement personnel, ça me donnait moins de culpabilité. À ce moment-là, je me rends compte que mes potes, ils commencent à avoir une vie légale, bien rangée et surtout heureuse. Et moi, j'ai envie de la même chose. Je me sens, oui, très seul. Et je commence à ressentir le besoin de trouver une personne qui serait ma moitié. Avec les filles, jusque-là, c'était 2 semaines, pas plus. C'est-à-dire que je ne rentrais jamais dans des relations longues, par peur, justement, qu'elles... ne m'accepte pas, qu'elle découvre mes secrets, qu'elle me rejette. Donc, je prends la décision de trouver une personne qui me comprenne. Alors, je m'inscris sur les applis de rencontre, je commence les premiers rencarts, jusqu'au moment où je découvre la personne que je considère être fait pour moi. Et on se met en couple, je commence à rentrer dedans, ça me fait extrêmement plaisir, ça me change, et je lui explique mon passé. Et elle réagit de la manière la plus belle possible. Elle me dit « Ce qui compte, ce n'est pas ton passé, mais c'est ce que tu es maintenant. » Et à ce moment-là, j'ai compris que c'était la bonne personne. On se met vraiment en couple. Et elle me dit « Mais honnêtement, qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie ?» Et le truc de détective privé, ça fait longtemps que je sais que ça correspond exactement à ce que je veux. Soit je devenais policier, soit je devenais détective privé. Alors, sachant que j'ai un gros problème avec l'autorité, policier, ce n'est pas possible. Et je me décide à faire la formation de détective privé qui a duré quelques mois. Puis, j'ai été embauché en tant que détective privé, CDI. Dans les types de clients, on a vraiment de tout. Particulier, entreprise, ça peut être prouver une maltraitance, du détournement de clientèle entre commerces. On peut avoir affaire de l'adultère, où on va très souvent filer la personne qui est accusée. Ça peut être Les problèmes de comportement ou de vol par des salariés dans un magasin, par exemple. Et récemment, on a eu un gros cabinet immobilier qui nous a appelés pour faire des vérifications de dossiers de candidats pour des locations. On peut aussi travailler pour des patrons d'entreprise pour vérifier des arrêts maladie. Bon, c'est assez rapide, honnêtement. Très souvent, la personne, quand on la voit, ne serait-ce que ratisser dans son jardin, ça suffit à prouver que l'arrêt maladie n'est pas valable. On prend des photos, on prend des vidéos, et puis c'est très vite plié. Moi, je le considère vraiment comme une reconversion réussie. C'est la première fois que j'ai eu un cadre. Ça a changé ma vie. Ce qui me plaît dans mon boulot, c'est vraiment la sensation de faire ce que je faisais un peu avant. Je fais des filatures véhiculées, je fais des filatures pédestres, je fais de la surveillance qui peut être de longue durée, ou sinon je fais de la récolte d'informations. Enfin, par exemple, mes derniers congés, le premier matin où je suis revenu, j'ai dû fouiller des poubelles. Ça, normalement, on n'a pas le droit, mais au final, c'est de la récolte d'informations. Mais là, j'ai plus à me dire « Oh putain, il y a peut-être la police qui va me chercher pendant 4-5 jours, tu vois », ou ce genre de truc. Et je suis actuellement avec des collègues qui reconnaissent mes compétences que j'ai acquises dans l'illégal, au final. Et c'est vrai que c'est assez exceptionnel. Là, je peux vraiment utiliser tout ce que j'ai appris tout au long de ma vie dans un métier qui sert pour d'autres personnes. Je suis en début de carrière et je suis payé le SMIC. Je touche aussi une prime d'intéressement sur l'agence. Sur les pratiques illégales, j'ai tout arrêté. Il y a beaucoup de gens de mon cercle proche qui sont au courant de tout, même de la séquestration qui a été vraiment l'événement le plus traumatisant. Avec ma famille, ça se passe beaucoup mieux. J'arrive à beaucoup plus me livrer, même si j'hésite parfois à rentrer dans les détails pour ne pas choquer. J'ai un rapport à la nuit qui a considérablement changé. Là où avant je voyais la nuit comme vraiment la sensation de liberté, là maintenant je le vois vraiment plus comme un environnement de travail. Je ne ressens plus cette envie de liberté de la nuit.
C'était le détective cambrioleur, un reportage de Clément Baudet réalisé par Eric Lancien. Merci à John, à Julia, à Fabien et à Élie, l'attaché de production des Pieds sur Terre. C'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Luce Mourant.